Radio Kapi.
Pour démarrer cette édition du soir, Radio Kapi vous amène à la haute chambre du Parlement pour parler de la situation peu reluisante des assemblées et gouvernements provinciaux. Les animateurs de ces institutions accusent un manque de paiement de plus de 30 mois, ont ainsi affirmé les délégués des gouvernements provinciaux auprès du président du Sénat, interpellé pour son implication. Nous parlons aussi dans ce journal des dirigeants de la province de l'Ituri et des autorités ougandaises des trois districts frontaliers à Mahagi Centre pour le renforcement de la coopération afin de la promotion de la paix en Ituri et des échanges commerciaux entre la RDC et l'Ouganda. En fin de cette édition avec notre invité, nous parlons également des accidents et naufrages sur les eaux congolaises et des dispositions préventives. C'est avec Gabriel Mokango, directeur technique de la régie des voies fluviales RVF. Continuez à nous faire confiance pour votre information, fidèles auditeurs, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Au micro pour la présentation de ce journal, Billy Ivan Lutumba. Situation difficile pour les assemblées et les gouvernements provinciaux. Faute des rétrocessions par le gouvernement central depuis plusieurs mois, les différents exécutifs provinciaux sont impayés depuis plus de 30 mois. Une délégation des membres des gouvernements provinciaux a même rencontré plusieurs autorités du pouvoir central, dont le président du Sénat, pour solliciter son implication afin de décanter cette situation qui paupérise de plus en plus les provinces. La revendication des exécutifs provinciaux intervient seulement quelques mois après celle des députés provinciaux. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a rassuré que cette situation sera décomptée en avril. Michel Kifindangoy.
Conformément à l'article 175 de la Constitution, le budget des recettes et des dépenses de l'État, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. La part des recettes à caractère national allouée aux provinces est établie à 40% et les retenues à la source. Cette retenue à la source a été remplacée en application par une rétrocession qui n'a plus eu lieu depuis 30 mois, déplore le ministre provincial du plan et du budget de Sankourou, Pierre Wembo.
La dernière rétrocession que nous avons reçue en province remonte au mois d'août 2019, c'est-à-dire dans le dernier trimestre de 2019, l'année 2020-2021 et ce premier trimestre de 2021, nous en province, on n'a pas été pris en charge et on n'a pas reçu la rétrocession. Ce qui veut dire, nos ministres provinciaux, depuis cette date-là, nous n'avons pas eu de salaire.
Le Sénat étant l'émanation des provinces, le président Modeste Bahati, à séance tenante, saisit la haute hiérarchie. Les autorités provinciales ont ainsi trouvé un écho favorable, car leur cas sera traité d'ici la fin du mois d'avril, a rassuré mardi dernier Modeste Bahati.
Et puis cette nouvelle en plus bref. L'exécution du programme d'urgence des développements à la base de 145 territoires commence à prendre forme. Ce jeudi, des protocoles d'accord et de financement entre le gouvernement et les agences d'exécution de ce programme ont été signés. Ainsi, 300 millions de dollars seront remis au PNUD, BESECO et le CEFEF, rapporte un tweet de la cellule de communication de la primature. Plaidoyer pour la tenue dans le délai constitutionnel des élections crédibles, transparentes et inclusives, les commissions justice et paix de la CENCO et de l'SEC ont rencontré hier mercredi le président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso. Le révérend Maurice Mondengo de l'SEC et Monseigneur Donancien Cholet de la CENCO ont encouragé auprès de Christophe Mboso de tout mettre en œuvre pour que l'Assemblée nationale réponde aux contraintes légales, budgétaires et de volonté politique pour la tenue dans le délai des élections inclusives et crédibles. Pour la CENCO et les CC qui s'étaient opposés à l'enterrinement de Denis Kadima à la tête de la CENI, cette démarche ne consiste pas à donner crédit à tous ceux qui pensent amener le pays dans les difficultés. Monseigneur Donatien Cholet est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous sommes habités par un seul souci, avoir les élections crédibles, inclusives, apaisées dans les délais constitutionnels en 2023. Nos deux commissions ont travaillé à la feuille de route présentée par la CENI qui a mentionné quelques contraintes qui engagent aussi le Parlement, contraintes relatives au cadre juridique, au financement des élections, contraintes relatives à la volonté politique et le Parlement se retrouve partout. Et Dieu merci, le président de l'Assemblée est conscient que la stabilité du pays dans les années à venir dépendra pour beaucoup du processus électoral. Et on devrait mettre de côté tout ce qui peut servir de prétexte pour aller au-delà du délai constitutionnel. Nous sommes là pour manifester notre volonté d'accompagner le pays, mais sans donner du crédit à ce qui amènerait le pays dans les difficultés. Mais tant mieux qu'on se comprend bien. Nous espérons qu'on peut aller dans la bonne direction.
En Ituri, le gouverneur a échangé mercredi avec les autorités ougandaises des trois districts frontaliers à Mahagi Centre, à 180 km au nord de Bunia. Au cours de cette rencontre bilatérale, ils ont fait l'état des lieux de la situation sécuritaire, économique et diplomatique entre les entités voisines des deux pays. Selon l'exécutif provincial de l'Ituri, l'objectif est de renforcer la coopération pour la promotion de la paix en Ituri et des échanges commerciaux entre les deux pays. Isaac Remoyope.
La délégation congolaise était conduite par le gouverneur de l'Ituri qui était accompagné des membres du comité de sécurité de la province. La partie ougandaise était représentée par les chefs des districts de Zombo, Nebi et Pakwach et leurs membres de l'Assemblée. Parmi les questions clés qui ont été abordées dans cette rencontre bilatérale, il y a les problèmes de circulation d'armes qui sont utilisés par les groupes armés actifs en Ituri. Et en économie, les deux parties ont échangé sur les tracasseries et la fraude qui affectent l'économie des deux pays. Les problèmes de délimitation des frontières étaient également au centre des discussions. Au cours de cette rencontre, les autorités des deux pays se sont engagées à renforcer leur collaboration pour résoudre ces questions. Le gouverneur Johnny Kachama.
La rencontre de ce jour nous permettra de formuler des recommandations qui pourront améliorer la qualité des dites coopérations entre nos deux entités.
Selon le député national Daniel Ouma qui a participé à cette rencontre, ce cadre est indispensable pour contribuer au rétablissement de la paix en Ituri et le développement de cette province.
Sur le plan sécuritaire, si les résolutions prises lors de ces assises sont appliquées, l'Ituri va souffler un peu parce que le mouvement d'armes seront contrôlés et ça va sensiblement réduire la capacité de nuisance des CODECO sur nos populations.
Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité dans la province du Sud Kivu. La délégation des gouverneurs des six provinces frontalières du Burundi avec la RDC, conduite par Jimmy Atungimana, gouverneur et maire de la ville-province de Bujumbura, et la délégation des membres du Conseil provincial de sécurité du Sud Kivu, conduite par le gouverneur de province Théo Ngwabidje, se sont rencontrés hier soir dans la ville d'Uvira. Les deux délégations ont échangé sur les questions d'intérêt commun portant essentiellement sur la sécurité au niveau des frontières, le Covid-19, le commerce transfrontalier, le séjour des Congolais vivant au Burundi et des Burundais se trouvant sur le sol congolais au Sud Kivu. Fiston Goma pour plus de détails.
Les deux délégations burundaises et congolaises se sont engagées de travailler main dans la main pour la paix et la sécurité des pays des Grands Lacs, en facilitant la liberté des commerces transfrontaliers entre la RDC et le Burundi. Le test de COVID-19 se paye encore à $15 américains pour une seule entrée au Burundi, alors que la RDC fait payer ce même test à $5 pour 14 jours à l'entrée. Dans les deux parties, les opérateurs économiques affirment que les taxes prélevées sur le petit commerçant transfrontalier ne respectent pas les nomenclatures des conventions signées au niveau de la CPGL et des COMESA. On écoute le gouverneur et maire de la ville-province de Bujumbura, Jimmy Atungimana.
Avec le commerce transfrontalier exercé par les personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens, on s'est convenu que la question sera étudiée et réglée avec la grande satisfaction des nations transfrontalières. Et nous allons mener la question de COVID à l'hiérarchie pour qu'une harmonisation en rapport avec les vrais relatifs au test COVID soit effectivement uniforme.
Concernant la sécurité, les deux parties ont résolu de mutualiser les efforts de sécurité au niveau des deux frontières. D'après le gouverneur de la province du Sud Kivu, ces questions de sécurité devront être approfondies à un haut niveau national par les parties prenantes. Douvira Fiston, Mayaba, la Radio Okapi.
Parlons à présent de cette insécurité dans la ville de Kikwit. Taux élevé de criminalité dû au phénomène Kuluna ces derniers jours dans la ville de Kikwit. Nous sommes dans la province du Kwilu. Selon les commandants Siaturban de la police de cette ville, c'est le retour à Kikwit des criminels qui ont été transférés à Kanyamakasese qui est à l'origine de cette résurgence. Le commissaire supérieur principal Odon Kachala déplore le fait que les parents de ces Kuluna soient parvenus à les faire revenir dans la ville de Kikwit. Ceux-ci, aussitôt arrivés, se prennent pour des intouchables et entraînent aussi d'autres jeunes, a-t-il dit. Il appelle ses parents à bien encadrer leurs enfants et à se lier avec la police afin de combattre la criminalité à Kikwit. Colonel Odon Kachala a été joint par Irène Boma.
Tous ces Kikwits qui étaient envoyés à la Niamara CC, les parents se sont arrangés pour les rapatrier ici à Kikwits. À leur arrivée, voilà un peu que ceux qui entraînent encore, qu'il y ait la montée de la criminalité, qui sont en train de commettre des bavures, de piller, de tuer, de voler. Il y a un 50-100 qui était aussi à la Niamara CC, que j'ai arrêté le 1er janvier ici. Il est en prison. Je l'ai arrêté en lui posant la question. C'est lui qui me dira comment est-ce qu'on leur a envoyé l'argent par ses parents, comment il a pris la moto de la Niamara CC jusqu'à Mboujimaï. Les parents lui ont envoyé l'argent de Mboujimaï ici à Tikapa, Tikapa, jusqu'ici. Imaginez-vous, on ne doit pas vouloir, au même moment, le froid et le chaud. Les mêmes parents qui crient l'insécurité sont les mêmes qui font venir les enfants. Ils sont nombreux parce que tous ceux qui étaient à la Niamara CC ont regardé ce qu'ils. Je demande aux parents de se liguer et de travailler avec la police, main dans la main, pour juguler l'insécurité au lieu de favoriser en cachant les enfants. Ils sont venus là maintenant, ils se croient maintenant intouchables.
Autre nouvelle d'actualité, c'est dans la province du Congo central. Les enseignants de la cité de Lukala dans le territoire de Mbanzangungu sont descendus hier mercredi dans la rue. C'est pour dénoncer plusieurs abus constatés dans le processus de leur paye chez Equity Bank. Ces enseignants qui se disent indignés par la brutalité qu'a usée la police pour les disperser sollicitent auprès des décideurs la mutation de leur salaire vers une autre institution bancaire. Pour en parler, retrouvons dans la province du Congo central Nana Plurich Mambo.
À travers cette marche qui est partie de l'école Mbatafusi, en passant par les ronds-points Saint-Conteneur pour chiter à l'agence Equity BCDC Lukala, ces enseignants dénoncent ce qu'ils qualifient d'injustice et mauvais traitement dont ils sont victimes de la part d'Equity BCDC, leur opérateur de paye. Parmi les réclamations figurent aussi la paye tardive des frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires et la confiscation de leurs primes de gratuité de mois de décembre 2021 et celle de mois de janvier et février 2022. D'après eux, cette prime a déjà été versée dans d'autres sous-divisions. Vanessa Nsemi, secrétaire sous-provinciale du Sinekat Lukala, sollicite la mutation de la paye des enseignants vers une autre banque qui sera plus crédible qu'Equity.
Le retrait excessif des frais fictifs sur nos salaires pourtant dérisoires. La manie habituelle de la panne du distributeur automatique à chaque paye alors que les frais des cartes électroniques sont aussi défalqués. Nous avons sollicité un transfert de nos salaires vers une banque de notre choix.
Contacté, Christian Landou, chef d'antenne d'Equity BCDC Lukala, indique que les allégations des enseignants sont mensongères. Selon lui, à ce jour, il n'y a pas de retenue ni de complications des salaires au niveau de leur banque. Toutefois, il s'est dit disposé à rencontrer les syndicalistes pour qu'ensemble, ils harmonisent les vues. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Territoire de Masisi, les déplacés internes des camps de Mpati et de Kalengera en chefferie de Bachali Mokoto ont passé leur première nuit à la Belle Étoile. C'est la conséquence d'une forte pluie qui s'est abattue hier mercredi sur les localités Nyangé, Biboué et Lupumda, causant ainsi des dégâts énormes. Une centaine de huttes des déplacés ont été emportées par le vent selon la première évaluation faite par une organisation de la jeunesse locale qui plaide pour une assistance urgente en faveur des victimes. Denise Loukesso.
161 huttes complètement détruites, des bâches, 30 latrines et 19 douches emportées par les vents violents causés par une forte pluie torrentielle qui s'est abattue hier mercredi dans cette région. 6 maisons en dur des habitants d'Empati également endommagées et plusieurs hectares des champs détruits par cette pluie, selon l'évaluation de l'Organisation des jeunes de Masisi. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées sont exposés aux intempéries et à haut risque. Ntasugi Simba Baudouin, président de cette organisation, parlait d'un grand besoin humanitaire en vivre et non vivre pour ces déplacés qui y ont tout perdu. Il sollicite du gouvernement d'envisager un plan durable de faire retourner les déplacés dans leur zone d'origine et aux humanitaires de faire une évaluation rapide afin d'assister urgemment à se déplacer en abri, vivre, médicaments, réhabilitation des installations sanitaires. Les camps d'Empati hébergent 18 486 personnes ayant fui l'insécurité dans leur zone d'origine depuis plusieurs années et lesquelles restent toujours sous occupation des groupes armés. Goma, Denis Loukesso, Radio Kapi.
Au Kasaï oriental, la Société des chemins de fer du Congo SNCC, représentation de Mbujimaï, annonce l'arrivée à la gare ferroviaire de Mweneditu des plusieurs wagons citernes contenant du carburant. À cet effet, elle invite tous les opérateurs économiques propriétaires de ces wagons citernes de les décharger dans le délai pour permettre à l'entreprise de les retourner vides vers leur réseau, car ils sont soumis au régime inter-échange. Justin Bouilly, représentant de la SNCC Mbujimaï, s'exprime au micro de Esther Ndalafina.
La gare ferroviaire de Mweneditu a réceptionné dernièrement un lot important de wagons-citernes chargés de gasoil en provenance de l'Afrique du Sud. Mais nous constatons malheureusement que les opérations de déchargement ou de dépotage de ces wagons-citernes ne suivent pas. Elles sont trop lentes, alors que nous avons affaire à du matériel étranger soumis au régime d'interéchange. C'est pourquoi nous demandons aux opérateurs économiques concernés de faire en sorte que leurs produits, qui sont à Mouenéditou, soient déchargés avec célérité, soient déchargés dans le délai leur imparti, afin de permettre à la SNCC de retourner les citernes étrangères vides vers leur réseau.
Actualité internationale.
L'invasion russe de l'Ukraine précipite depuis 2 semaines les prix de l'agroalimentaire, de l'énergie et des matières premières à des niveaux records. Ces 2 pays assurent environ 1/3 des importations mondiales de blé, dont l'Égypte est le premier importateur au monde. L'inflation annuelle a atteint 10% en février en Égypte, au plus haut depuis 2019 selon l'Agence nationale des statistiques, alors que la guerre en Ukraine fait flamber les prix à travers le monde. Des dizaines de partis parmi les plus représentatifs de Guinée ont menacé mercredi d'appeler à manifester si la junte au pouvoir persiste à les tenir à l'écart et à retarder le retour des civils à la tête du pays tout en humiliant leurs leaders. Ces partis sont sortis de la retenue observée jusqu'alors vis-à-vis de la junte qui a pris le pouvoir par la force en septembre 2021. Le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, qui s'est fait investir président le 1er octobre, s'est engagé à rendre le pouvoir à des civils élus à l'issue d'une période transitoire, mais il refuse de se laisser dicter un délai.
L'invité.
Notre invité, c'est Gabriel Mokango, directeur technique de la Régie des voies fluviales RVF. Il vient clore notre dossier thématique sur la difficulté du transport fluvial et lacustre en RDC. Il déplore l'indiscipline des armateurs qui larguent sur les eaux congolaises des embarcations qui ne répondent pas aux normes et des capitaines qui ne maîtrisent pas le code de navigation. Par ailleurs, il plaide pour l'instauration d'un fonds d'entretien des voies navigables pour que la RVF ait les moyens de sa politique. Gabriel Mokango s'entretient avec Cynthia Bachizina Bizana.
Monsieur Mokango, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Alors, nous avons comptabilisé plus de 400 personnes portées disparues dans les eaux congolaises entre 2019 jusqu'à ce jour. Que faire pour arrêter cette comptabilité macabre?
Merci pour la question. Comme j'ai toujours dit, pour arrêter ces cas que nous enregistrons chaque jour, il faut que tout le monde respecte la réglementation en la matière, surtout dans le domaine de la navigation fluviale ou lacustre. Au niveau de l'État, est-elle représentée par des agents qui sont des chefs de poste que nous appelons commissaires civils ou commissaires lacustres? C'est eux qui doivent mettre en œuvre et faire respecter strictement toute cette réglementation. De manière à ce qu'au départ même de l'unité, avant que l'unité n'apparaisse, qu'on voit le cas de l'unité, la qualification du personnel qui doit conduire cette unité et également le chargement. Parce que généralement, on charge plus qu'il ne faut, donc on va au-delà de la capacité de l'unité. On laisse la vie des hommes entre des mains inexpertes, donc des gens qui n'ont pas qualité pour naviguer sur nos eaux, mais également chaque unité doit avoir un certain nombre de sujets de sauvetage. Si vous embarquez 20 passagers, vous devez avoir plein de sujets de sauvetage. Mais du côté des armateurs, du moment où ils ont accepté de faire dans le secteur, ils doivent être aussi informés et appliquer ce qu'on leur demande. Et la plupart sont des embarcations de fortune, donc en bois, et ces embarcations baleinières ou canots, que sais-je moi, ont une durée de vie. Le maximum, c'est 3 ans. Donc, s'ils ne respectent pas ça pour amener à qualité, qu'on voit un peu qu'est-ce qu'il faut faire, donc nous allons toujours continuer à déplorer ce cas de naufrage.
Oui, pourquoi est-ce que l'État a du mal aujourd'hui, justement, à normaliser ce secteur?
Bon, je ne dirais pas que l'État a du mal. Mais madame, si les responsabilités sont partagées, donc chaque parti doit faire en sorte de respecter ses obligations. Parce que ces embarcations ne sont pas nantis de faire des positions, ne sont pas nantis de tout ce qu'il faut comme projet. secteur de manière à ce qu'il puisse repérer les obstacles là-dedans. Il dit qu'il navigue la nuit pour échapper aux tracasseries, mais c'est à leur dépens. Mais l'État, c'est l'État. Donc nous demandons aux préposés qui sont postes, les commissaires fiscaux et les commissaires Latus, de faire respecter, d'être vraiment strict si une unité ne remplit pas les conditions, de ne pas le laisser à Paris.
La RVS est vraiment le cantonnier des voies navigables, mais cette entreprise publique n'a pas aujourd'hui tous les moyens de sa politique. Et donc vous avez toujours plaidé pour qu'il y ait un fonds d'entretien de voies navigables, à l'exemple du FONER, qui est le fonds d'entretien du réseau routier.
Effectivement, madame, nous sommes des cantonniers, à l'instar de l'office des routes de l'OVD. Mais dès qu'ils ont un fonds, le fonds d'entretien routier, le fleuve et tous ses appuyants, constituent des voies de communication naturelle. Mais ça demande un certain nombre de travaux exécutés pour que ça soit navigable. Mais il faut qu'il y ait un fonds permanent qui puisse prendre en charge le coût des travaux. Les travaux de balisage ont un coût. Alors, tant que l'État ne va pas disponibiliser des moyens financiers conséquents pour permettre à la RVS de faire son travail comme il se doit, nous allons toujours déplorer. Parce que quand vous regardez la carte du réseau de la RDC, vous comprendrez que nous avons un réseau le plus dense possible. Les routes, ça représente combien de kilomètres? Le chemin de fer, combien de kilomètres? Mais je vous donne un exemple. Le voie d'eau intérieure, nous avons plus de 15 000 kilomètres. Et c'est ce voie d'eau qui pratiquement couvre tout le territoire national. Je suis sûr de démontrer que là où les voies d'eau n'étaient pas navigables, on les a reliées par le chemin de fer. Mais, madame, ici, il n'y a pas de moyens. On va toujours continuer à déplorer ce cas. Donc, pour le sujet à RVS, il faudra que le moyen conséquent soit mis à sa disposition. C'est à ce moment-là qu'on verra si le travail sera fait de manière optimale ou non. Mais pour le moment, ça représente des efforts. Nous allons toujours faire un chapelet de bonne intention, mais rien de substantiel sur le terrain ne sera visible.
Monsieur Mokango, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Fidèles auditeurs, ça en est ainsi fini avec cette édition du journal préparée par Élisée Chikota, Martin Sebujangwe, Pelé Kipelamondo et l'ensemble de toute la rédaction. Billy Ivan Lutumba était devant ce micro pour la présentation et Polydor Basunga a assuré la prise de son et la mise en onde. Nous vous disons une fois de plus merci pour votre attention soutenue.